Un papa, c'est quelqu'un qui aide ses enfants.
Un papa, c'est une personne qui est vraiment gentille, qui prend soin de toi. Si tu as quelque chose que tu veux, ben, il ne te le donne pas toujours, mais il te donne la plus importante chose, de l'amour.
C'est quelqu'un qui s'occupe de moi.
Ben, c'est quelqu'un qu'on peut à qui confier.
Pour moi, un père, c'est un homme qui t'a appris beaucoup de choses, comme faire du vélo et choses comme ça.
Je sais pas.
Un papa, c'est une personne très importante pour faire un bébé, mettons.
Mon papa, c'est quelqu'un qui m'aime et qui protège ma famille. Je sais pas.
Pour moi, un papa, c'est comme quelqu'un gentil, puis
c'est fort.
C'est quelqu'un qui m'aime.
Un papa, ça joue avec ses enfants.
Il t'aide pour te rendre un peu une meilleure personne et il t'éduque, puis tout ça.
Ça m'aide à comprendre les choses.
Ben, ça protège, puis ça prend soin de toi.
Ben, ça peut travailler, ça fait des choses, ça aime les voitures des fois.
Je sais pas.
Ça travaille.
Ben, ça travaille.
Ça nous protège.
Ce que j'aime le plus de mon papa, c'est qu'il joue avec nous et qui prend beaucoup soin de nous.
Ce que j'aime le plus, ben, c'est juste qu'il m'aide, il me donne plein d'activités à faire.
Ben, il est gentil,
sa gentillesse.
J'aime ça, tiens, parce que j'aime ça quand il me donne des chocolats quand on vient de l'école.
Je joue avec mon papa, qui lit des histoires.
Quand il me fait des blagues.
Quand il joue avec moi, puis il me chatouille.
Moi, je fais des fois du sport avec mon papa, comme des entraînements.
Je joue au tennis.
Mon papa, il fait pas de sport.
Un peu de soccer.
Pas souvent.
Du baseball. On fait on fait du vélo ensemble.
Une fois, je m'ai pratiqué au judo avec mon père.
Non.
Il fait souvent des trucs rapides à faire.
Le couscous, puis du riz, du spaghetti.
C'est plus ma mère qui en fait, mais des fois, mais c'est rare.
Non, c'est plus ma mère.
Ben oui, souvent.
Oui, il fait des biscuits.
Des barbecues. Des fois.
Il fait des tacos.
Des barbecues.
Et papa.
Dieu.
Mon papa.
Mon papa. Et Jésus.
Mon père.
Batman.
Ça, j'en doute, mais il est fort.
Non. Je pense que oui.
Oui.
Parce qu'il me l'a dit plusieurs fois.
Ben, ça se voit.
Parce qu'il me le dit souvent.
Ça apparaît dans son visage.
Parce qu'il me dit toujours qu'il m'aime. Puis quand il me regarde, il me donne toujours un bisou sur la tête.
Est-ce qu'il fait à manger?
Il me l'a dit.
Parce qu'il me l'a dit. Parce que c'est mon papa.
Yeah. Bonne fête des pères à tous les papas Nouvelle Vie. Bonne fête des pères à ici et tous ceux qui vont regarder ce message. Nous avons à Nouvelle Vie plusieurs milliers de papas extraordinaires. Nouvelle Vie Longueuil, Nouvelle Vie La Prairie, Nueva Vida, et aussi maintenant avec des Nouvelle Vie Drummondville qui est en route. On a aussi Nouvelle Vie Sept-Îles qui télécharge des messages. Alors, on veut dire qu'il y a à Nouvelle Vie toutes sortes de papas, des centaines et centaines, milliers de papas extraordinaires qui sont là, qui sont fidèles, des pères, des grands-pères, des pères adoptifs, des pères qui sont familles d'accueil, des pères spirituels. Il y a des hommes par centaines dans ce lieu qui ont leurs enfants ou, et au-delà de leurs enfants sont des pères spirituels pour d'autres. Et ce matin, nous voulons honorer tous les papas. Mon titre, c'est être un héros, comme on l'a vu sur la vidéo, être un héros, être un père. Nous avons, je souligne que nous avons aussi le ministère des hommes de l'Église Nouvelle-Vie qui depuis des années a ce thème de héros parce que les pères, les hommes sont des héros ici à Nouvelle-Vie. Je souligne le travail de Pasteur Marc Lecomte et toute l'équipe des hommes qui a toute l'année fait un travail extraordinaire pour soutenir les hommes. À cet égard, si vous ne le saviez pas, tous les hommes qui sont ici, c'est ouvert aux femmes aussi, bien sûr, mais à chaque semaine, vous pouvez recevoir, à tous les lundis matin, vous pouvez recevoir une parole d'homme, un message de Pasteur Marc qui l'écrit et qui vous envoie, que vous pouvez recevoir sur votre téléphone. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas inscrit encore pour parole d'homme, ça commence bien la semaine. Alors, si vous êtes, vous n'êtes pas encore inscrit au comptoir, envoyez-nous un courriel ou en allant sur le site, vous allez pouvoir à partir de maintenant recevoir une parole d'homme. Et toutes les femmes, tous les enfants, est-ce qu'on peut célébrer le ministère des hommes et des papas à Nouvelle Vie ensemble, le ministère de héros? Je suis bien conscient, comme pasteur, après toutes ces années, 30 quelques années de ministère, que lorsqu'on parle du sujet des pères, c'est un sujet qui est sensible. Si vous voulez voir l'atmosphère changer autour d'un souper, vous avez 7-8 personnes qui soupent ensemble, des amis, commencez à parler de vos pères et immanquablement, il va y avoir toutes sortes, il y a des émotions qui sont là. Je sais, après toutes ces années de ministère, et je sais parce que c'était mon cas, sans aucun manque de respect, je peux dire, je peux m'identifier à plusieurs d'entre vous qui allaient dire, ben moi, ton titre, là, être un père, être un héros, moi, mon père, c'était pas un héros. Moi, mon père, il y a des gens qui sont ici qui ont souffert d'abus, de négligence, d'abandon, de toutes sortes de choses, des relations qui sont difficiles. Lorsqu'on dit fin dimanche, fête des pères, il y en a qui, il y a même des gens qui disent, je ne sais pas si je vais aller à l'église aujourd'hui, ça va me remuer, toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont ici, la relation a été difficile avec un père qui n'est pas encore, c'est pas réglé ou encore, ou c'est un père qui est vivant ou un père qui est décédé. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de pères, beaucoup d'entre nous qui, comme père, comme mère aussi, je vais juste, même en commençant à dire ce matin, tous les principes que je vais adresser ce matin s'adressent aux pères, aux mères, aux hommes et aux femmes. Une des choses magnifiques que l'apôtre Paul fait lorsqu'il donne ses enseignements, par exemple, dans Thessaloniciens, de mentoring, il dira de lui-même, « J'ai été comme un père pour vous et j'ai été comme une mère, comme une nourrice. » Alors, les principes d'influence, de leadership, les principes spirituels que je vais apporter ce matin, je les applique aux pères, mais ils sont bien sûr pour les mères, ils sont pour les hommes, ils sont pour les femmes, ils sont pour chacun d'entre nous, tant comme père que comme dans notre relation avec notre père, quelle qu'elle soit. Il y a beaucoup d'entre nous ici ce matin qui avions ce désir de simplement faire mieux, de dire, oh, mon épouse et moi, on parlait récemment, est-ce qu'on a fait mieux, est-ce qu'on a essayé de tellement bien faire comme parent, comme père, vouloir faire mieux. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous avaient eu des pères formidables, des pères extraordinaires, d'autres moins. Mais il y a cette réalité pour beaucoup d'entre nous, pères et grands-pères, qu'on a fait le mieux qu'on pouvait, on a tout donné ce qu'on avait, on l'a fait passionnément, et il n'y a pas toujours le résultat. Il n'y a pas toujours, en ce moment, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas toujours le fruit dans mes enfants ou dans mes petits-enfants, la foi que j'aurais voulu communiquer, les valeurs que j'aurais voulu communiquer. Il y a aussi beaucoup de jeunes pères. Moi, j'ai une admiration, je le dis publiquement ce matin, j'ai une admiration pour les jeunes pères que je vois à Nouvelle-Vie, les jeunes couples, les jeunes pères et mères, mais les jeunes pères qui ont tellement de choses à jongler. Je vois beaucoup de jeunes pères qui sont plus, je crois, plus préoccupés par ce rôle-là que nous l'étions, que nos parents l'étaient, qui veulent tout, qui jonglent avec tout, avec la carrière, avec toute l'affaire, avec tout ce qu'il y a, essayer de tout faire pour être un bon, pour un bon père, dans une culture qui, en ce moment, dévalue énormément le rôle de l'homme, le rôle du père. Qui se pose littéralement à chaque jour. La question, littéralement, c'est quoi être un bon père? Comment je peux être un bon père? Et ça, on voit ça partout dans l'actualité du méga tube il y a quelques années du jeune chanteur français Stromae a écrit une chanson qui a capturé la francophonie qui s'appelait Papa, où t'es? Papa, t'es où es-tu, papa? Puis c'est un cri d'un fils pour son père à un livre qui sort aujourd'hui par l'auteur le plus lu en français de la francophonie, Marc Lévy, qui a écrit plusieurs best-sellers. Il écrit, il vient d'écrire, il sort le dimanche de la fête des pères, un livre sur les relations Ghost in Love, les relations père et fils. Et il y a une interview dans le journal où on lui pose la question, comment vous êtes-vous venu à l'idée de parler des relations entre un père et son fils? Et il écrit, dans mon bureau, il y a depuis toujours une photo de mon père sur laquelle il arbore un grand sourire. Il a un visage très expressif. Un de mes amis disait même, c'est incroyable cette photo, on dirait qu'il va parler. Ça, c'est l'étincelle d'une idée. Ensuite, j'ai constaté dans le rapport qu'on entretient avec les pères qu'il y avait une plus grande pudeur, une plus grande retenue que dans les rapports avec les mères. Or, cette distance ne reflète en rien l'importance du lien paternel. J'ai entendu beaucoup d'amis me parler de leur père en prenant conscience qu'ils n'avaient jamais parlé, d'une façon qu'ils n'avaient jamais parlé à leur père. Ce lien-là peut être difficile. Je me suis dit que c'était un sujet plein d'humanité. Le roman part donc d'une question d'un des protagonistes, Thomas, qui pose à son père, « Dis, papa, c'est quoi être un père? » C'est une question que je me suis posée, dit Lévy, toute ma vie. Alors, c'est quoi être un père? Avez-vous trouvé la réponse? Il termine en disant, « Je pense qu'il m'a fallu 400 pages pour trouver la phrase juste pour l'exprimer. » C'est que Raymond, le père, parle de la balade à vélo avec son fils et qu'il dit, « Ça doit être ça, être père. C'est ouvrir la route en se retournant sans arrêt. » Trouve la route, mais surveille. Trouve la route et surveille. Et lorsqu'on regarde dans les... vous savez, il y a des thèses de doctorat, de maîtrise de doctorat sur comment on a projeté l'image du père dans les médias, dans la dramaturgie, dans la littérature québécoise. Et très souvent, il y a des thèses de doctorat là-dessus, très souvent dans les émissions de télé, dans les grandes séries, le père, le rôle du père attendant, le père est souvent dépeint en milieu québécois de façon un peu risible, dépassé, dévalué, absent, déconnecté. Patrick Lagacé a écrit récemment, le père a été le punching bag de la dramaturgie québécoise. On fait sur le père. Et savez-vous que parfois, l'Église a un peu emboîté le pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué, pas. On fait tout pour ne pas faire ça ici. Mais souvent dans les Églises, la fête des mères, comment je pourrais dire ça? La fête des mères, on valorise la maman. Il y a quelque chose de beau. On valorise la mère. On la bénit. La fête des pères, on varlope les pères et on leur donne un coup de batte. Est-ce que vous me suivez? On fait passer ici à Nouvelle Vie. À Nouvelle Vie, ici, nous appelons les pères des héros. On les appelle des héros, on les considère comme des héros, on les appelle à être des héros et à accomplir leur... Vous me dire amen? Plusieurs pères ne se considèrent pas comme des héros eux-mêmes, parce que l'on laisse faire héros, parce que notre idée de c'est quoi un héros a été tordue, a été délavée au fil du temps par les images. Il n'y a jamais eu une époque comme en ce moment avec des films de super-héros. Puis qu'est-ce qui est considéré dans notre société? Dans notre société actuellement, on mélange, il y a une grande confusion entre un héros et une célébrité. Il y a plein de gens qui sont des célébrités, qui ne sont pas des héros. Tout le monde va être célèbre pendant quelques instants. Savez-vous qu'il y a une liste des Québécois ou Québécoises qui ont plus d'un million de personnes qui les suivent sur leur page Facebook ou leur site ou leur chaîne YouTube? Des Québécois, Québécoises, 1 million de personnes et plus. Et parmi ces célébrités, il y en a un qui a plus d'1 200 000 personnes et son exploit, c'est qu'il joue de la flûte avec son nez. Il y en a un autre qui a 1,3 million, et lui, son exploit, cette célébrité, c'est qu'il fait des flatulences dans un bain de mousse et les bulles qui montent, et 1,2 million, puis on va regarder un bout du vidéo. Non, on ne regardera pas un bout du vidéo. Célébrité! Il y a une différence entre être célèbre et être un vrai héros. Les célébrités font un bref splash plus ou moins réussi. Les héros font une différence à long terme dans la vie de ceux qu'ils touchent. Je devrais dire, amen, il y a des héros ici. Les célébrités, ce qui compte pour eux, c'est l'image, c'est être vu, c'est être connu, c'est leur moment. Les héros, ce qui compte pour eux, c'est la fidélité, souvent qui n'est pas vue, qui n'est pas reconnue. Les célébrités, très souvent, les célébrités, même leurs efforts, leurs exploits sont ultimement pour eux-mêmes. Formidable, Tiger Woods, 8 opérations, revient, gagne un tournoi majeur pour lui. Paul McCartney, 79 ans, elle chante encore pendant 3 heures. Formidable, effort pour lui. Un vrai héros, ses efforts, son sacrifice, son don de lui-même. Les célébrités veulent être servies par tout le monde, mais le héros, lui, ses exploits sont pour les autres. Il sert les autres, il sert sa famille, il sert son épouse, il sert le Seigneur, il sert une cause plus grande que lui-même. Je célèbre les héros ce matin. Les héros, c'est les pères. Je reprends les paroles, j'espère que vous allez les reprendre avec moi en ce dimanche de la fête des pères. Le psaume 16, 3, « Les hommes de Dieu dans le pays sont mes vrais héros et sont l'objet de toute mon affection et de mon admiration. » Nous célébrons les hommes de Dieu dans ce lieu ce matin. Je veux célébrer les hommes de Dieu, nouvelle vie, qui sont fidèles. Les hommes de Dieu qui sont là, qui sont fidèles, qui aiment. Les hommes de Dieu qui donnent, les hommes de Dieu qui pardonnent. Qui écoute, qui console, qui combat, qui s'accroche, qui ne lâche jamais. Les héros hommes de Dieu qui prennent des risques, parce que tu ne peux pas être un héros en la jouant safe. Un homme de Dieu et un chrétien et un père héros, c'est quelqu'un qui prend des risques. Il risque de s'engager. Prend le risque de s'engager pour la vie. Il prend le risque d'aimer. Il prend le risque de se donner. Il prend le risque d'ouvrir son cœur. Il prend le risque de pardonner. Il prend le risque de faire confiance à nouveau. Il prend le risque de rêver à nouveau. Il prend le risque de croire. Il prend le risque d'espérer et de recommencer encore et encore parce qu'il est une réflexion du cœur de Dieu. Quelqu'un devrait dire oui? Ce matin, je célèbre les papas qui sont des héros en tant qu'Église, qui se donnent passionnément à leur maison, mais qui ont aussi un cœur pour la maison de Dieu. Avec leur temps, avec leur bénévolat. Savez-vous que la colonne vertébrale de l'Église, c'est des hommes et des femmes, c'est des pères et des mères et des célibataires. Mais cette Église, comme chaque Église d'impact, a été et bâtie par plein d'hommes qui ont des familles, mais qui donnent à la famille de Dieu, qui ont des enfants et qui donnent aux enfants de Dieu, qui pourvoient aux enfants de leur maison, mais ont un cœur pour les enfants qui n'ont rien pour un cœur pour les enfants qui sont éloignés. Je parle de pères, et des pères biologiques, mais il y a un impact aussi aux pères qui sont. Il y a des pères qui sont ici, je n'aimerais pas de nom, mais il y a plein de familles qui sont ici, de couples qui sont des familles d'accueil, qui prennent des enfants chez eux, qui ouvrent leur maison, qui sont des pères mentors, des pères spirituels, des pères qui soutiennent des jeunes qui sont sans parents, que ce soit à travers le 21, 59 ou à travers Action Nouvelle Vie. Je veux célébrer des pères qui expriment le cœur de Dieu ce matin. Vous êtes des héros, des héros qui sont différents. Parce que le père héros, les vrais héros n'ont pas peur d'être différents. Un vrai héros n'a pas peur de se tenir seul, de sortir un peu du lot, de ne pas s'enfuir, de se tenir seul parfois pour ses convictions, se tenir seul pour sa foi. Au travail, il n'est pas exactement pareil comme tous les chums. Il n'a pas la même grivoiserie, il n'a pas la même vulgarité, il n'a pas les mêmes standards, il n'a pas la même... Il ne parle pas pareil, il ne pense pas pareil. Il est au bureau, il est à l'école, il est avec ses amis, dans la famille. Il a le courage d'être différent. Un héros se tient à l'endroit où Dieu l'a appelé lorsque les autres s'enfuient vers les hauteurs. C'est fascinant lorsque David arrive à l'automne de sa vie, vers la fin de sa vie, il se met vous lirez ça dans 2 Samuel, il se met à nommer des noms qui apparaissent juste une fois, des noms qui n'ont pas eu d'exploit public, mais lui, il sait, comme moi, je sais, comme pasteur et comme leader de ce mouvement, que le royaume de Dieu se bâtit avec des hommes qui se tiennent à leur place, seuls parfois, à contre-courant. Dans 2 Samuel 28, il dira, « Voici les noms des vaillants héros qui était au combat avec David. Éléazar, il était un des 3 qui restèrent debout au combat, tandis que les hommes d'Israël se retirèrent sur toutes les hauteurs. Je remercie Dieu pour les hommes qui ne sont pas sauvés, pour les hommes qui n'ont pas fui quand ça allait mal, qui n'ont pas tout balancé, qui n'ont pas suivi le courant vers les hauteurs, mais qui ont dit, moi j'ai un appel, je plante mes pieds dans le sol de la foi, puis moi je suis ici pour me tenir, même si je suis différent, même si je ne suis pas comme cette société, je veux ressembler à mon Dieu. Quelqu'un devrait dire amen ce matin, je parle de héros. David fait quelque chose, il se met à souligner plein de choses que personne n'avait vues. Des affaires que, pas publiques, pas Goliath est tombé, pas ces grands moments-là, la bataille. Des héros qui ont fait des choses que personne n'a vues. Mais lui, comme leader, les a vues. Et surtout, Dieu les avait vues. Il se met à souligner que l'héroïsme, n'est pas seulement dans le spectaculaire. Qu'être un héros, c'est pas juste dans le splash, c'est pas juste dans le public, c'est pas juste dans le tape à l'œil, c'est pas juste dans l'extérieur. 2 Samuel 23:16, il raconte une anecdote hallucinante, quelque chose qui a pris place. David était dans son camp et vous lirez à la maison, la Bible nous dit, et David eut un désir pour de l'eau de la citerne de Bethléem. Ça représentait beaucoup parce que c'était le territoire que l'ennemi avait volé. Puis ils étaient entourés d'ennemis, puis ils voulaient essayer d'aller reprendre ce territoire-là. Et David fait juste dire, il ne fait même pas une demande. C'est comme une prière, il y a un soupir que je désirais avoir de l'eau de la citerne de Bethléem. Mais la Bible nous dit qu'il y a 3 hommes, 3 héros, 3 vaillants qui l'ont juste entendu et passèrent à travers le camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Les commentateurs bibliques nous disent que c'est à la distance d'un marathon de 40 kilomètres en territoire ennemi. Oh, je voudrais boire une eau, je voudrais boire de l'eau de la citerne. Et les gars partent. Et ça, on ne sait pas combien de temps ça leur a pris. Probablement de nuit à travers les ennemis. Ils prennent des risques menacés pour aller chercher de l'eau de la citerne de Bethléem. Et lorsqu'ils reviennent à David, David, tu avais un désir de boire de l'eau de la citerne de Bethléem. Ça représentait l'accomplissement de reprendre de l'ennemi ce que l'ennemi avait volé. Amène le verre à David. David, tu peux le boire maintenant. Et alors qu'ils traversèrent le camp ennemi, personne n'a vu accepter David et eux. Ils revinrent avec de l'eau de la citerne de la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit au sol. Ben voyons donc! Hey! On vient de traverser le camp. On vient de risquer nos vies. Pourquoi est-ce que tu la bois pas? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que tu as versé, répandu et déversé l'eau? Oh, il y avait un message tellement important pour tous les héros, pour tous les pères ce matin. Pourquoi a-t-il versé l'eau? Pour honorer et célébrer les héros, ce matin, les héros, papa, qui déversent leur vie dans la vie des autres, pas seulement en parole, mais en action. Tu déverses ta vie et Dieu veut t'honorer ce matin pour rappeler à tous ceux, à tous ces héros, que leur sacrifice n'est pas insignifiant ou oublié par Dieu, que c'est précieux et compté par lui pour corriger à jamais la perception nocive et toxique que l'héroïsme, c'est seulement extérieur, c'est seulement du tape à l'œil. Non, 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 non. Les héros sont fidèles, les héros sont droits, les héros sont intègres, alors que personne ne les voit. Et pour dire à chaque héros ce matin, même les gestes les plus petits que tu fais aux plus petits, c'est à Dieu que tu les fais, c'est devant lui, il le voit et il t'honore ce matin. Quelqu'un devrait applaudir les héros. Un père est un héros ce matin. Je veux juste faire un comme père imparfait et comme grand-père adoptif imparfait. J'aimerais juste vous donner quelques pensées, encore une fois, autant pour les hommes que pour les femmes, mais pour les pères ce matin, quelques pensées de coaching, de mentoring sur c'est quoi être un père, être un héros. Et le héros, le père héros, parle, quelques pensées la première, parle de ses proches à Jésus, même si parfois, même s'il traverse des saisons où sa propre foi est faible. On va regarder ensemble un texte dans un instant, dans l'Évangile de Marc, et ça va être au chapitre 9. Vous avez un père, puis je trouve juste émouvant comment les choses sont les mêmes, comment est-ce qu'on s'identifie. La Bible nous dit qu'il y a un homme qui, de la foule, a dit à Jésus, je suis venu pour t'amener mon fils, pour t'amener mon enfant qui est tourmenté. Je veux juste l'amener à Jésus. Puis j'ai demandé à tous les frères de prier, j'ai demandé à tous les disciples de prier avec moi, comme toi et moi. Je vais amener mon mariage, je vais amener mes filles, mais je vais amener mes filles, je vais amener mes fils, je vais amener mes petits-enfants, je veux juste les amener à toi, à Jésus. Et ensemble, j'ai demandé à l'Église, j'ai demandé aux frères de prier avec moi, parce que dans son cas, son fils était tourmenté. Il était lié. Il se faisait du mal, il en faisait aux autres. Il mettait sa vie en danger. Et le Père, là, c'est fascinant parce que le Père va parler à Jésus, puis il va parler au « nous ». Nous avons besoin, si tu peux avoir compassion de nous, comme chaque père qui est ici, chaque mère bien sûr, mais chaque père qui est ici, que la souffrance du fils ou du petit-fils, la souffrance de la fille ou de la petite-fille, la souffrance est devenue la mienne. Il la porte littéralement, il parle au nous. Il arrive à Jésus avec son fils. Il avait été aux disciples, on a prié ensemble, mais en ce moment la situation n'a pas changé. En ce moment, ça fait longtemps qu'on prie ensemble, mais voici au verset 21, Jésus lui demande, depuis combien de temps? Est-ce que cela lui arrive? Il est lié, il est captif, il se fait du mal, un esprit le tourmente. Combien de temps a-t-il que cela lui arrive? Depuis son enfance, il n'est plus un enfant. Il parle de lui, il dit, c'est depuis, c'est pas un enfant qui a amené Jésus, on ne sait pas quel âge qu'il avait, mais c'était depuis son enfance. Ça fait longtemps que le tourment prend place, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, il parle à Jésus, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous, sa douleur, sa captivité est devenue la mienne. Jésus lui dit, si tu peux, parce qu'il y a quand même quelque chose de spécial au Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et j'aime tellement ce Père dans son humanité, je m'identifie tellement à lui. Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais il faut que ça augmente ma foi. Je crois, mais... Et j'aimerais dire à chaque père ou mère qui est ici, qui passe la tête parfois, est-ce que j'ai pas eu assez la foi? Je crois, mais qu'il n'y a pas de condamnation dans la réponse du Seigneur. Il n'y a pas de disqualification. Il n'y a pas de « Ah! » Pas assez de foi. Non. Jésus va arriver, il va dire, verset 27, il prend l'enfant par la main, le fit lever et se tint debout. Et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser l'esprit? Il leur répondit, l'esprit mauvais. Il leur répondit, ce genre-là, cette captivité-là, ce lien-là ne peut sortir que par la prière. Jésus dit à toi et à moi ce matin, dont la foi est parfois vacillante, continue, tiens-toi. Il n'y a pas de condamnation dans mon cœur. Avez-vous déjà pensé que les pères de l'Église chrétienne, les plus grands héros des héros, ceux qu'on regarde comme étant ceux qui ont donné naissance à l'Église chrétienne, les disciples de Jésus qui ont changé le monde, ces hommes qui ont bouleversé le monde, ces pères qui ont donné naissance à une Église mondiale historique jusqu'à 2000 ans plus tard, avaient leur saison comme cet homme. Et c'était surtout dans ces saisons où est-ce qu'il faut que tu continues, il faut que tu répètes, il faut que j'explique encore, il faut que je pardonne encore, il faut que j'aime encore, il faut que je crois encore, il faut que je m'étire encore, il faut que je risque encore, il faut encore et encore. Et les disciples sont venus dans Marc 14. Jésus leur dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi en disant, pardon, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, 7 fois il te demande pardon, tu le pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, oh Seigneur, augmente ma foi. Augmente notre foi. Lorsque face à l'ampleur de la patience et la résilience du combat, 7 fois encore, il revient, il faut que je recommence, il faut que je réexplique, il faut que je recroie, il faut que je ressème. Et parfois, c'est le pardon. Seigneur, augmente ma foi pour relâcher, pour pardonner à quelqu'un de ma famille, mais aussi même à nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu dira 7 fois le juste. Parce qu'à 7 fois, Proverbe 24, 7 fois le héros tombe, mais il se relève. Je veux dire à un héros ce matin, lève ta tête, t'as tombé, t'as failli, l'ennemi voudrait te culpabiliser, t'as tombé, relève-toi. Le héros n'est pas celui qui tombe pas. Chaque héros a eu des moments où est-ce que j'ai manqué, mais ce matin, je me relève par la grâce de Dieu et je vais continuer le combat. Tous les héros devraient dire amen. Et l'apôtre Pierre qui avait tombé et qui a été relevé a donné l'avertissement suprême à tous les pères, à tous les héros. La seule façon dont tu ne deviendras pas une proie du lion rugissant qui cherche à te dévorer, la seule façon que tu peux lui résister, c'est en te déchargeant sur lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, les mêmes combats, les mêmes poids, les mêmes soucis, les mêmes charges que vous portez sont aussi imposés à ceux qui sont dans le monde. Tous les pères portent des charges. La différence entre un chrétien, un père chrétien et un père non chrétien n'est pas que le père chrétien n'a pas de charge. La différence, c'est que les charges... Lorsque je priais pour les pères ce matin, toute la semaine, la première réunion, la deuxième réunion, j'étais frappé par tous les hommes qui sont ici aujourd'hui. Et si on pouvait, pendant un instant, voir dans leur cœur, on verrait des hommes, bien m'aider Yves, on va passer Yves, on verrait spirituellement des hommes qui sont là, courageux, des héros qui veulent avancer, qui veulent faire bien, qui veulent, mais qui portent une charge, qui portent un poids. Il charge d'un père. Puis il dit, tous les pères, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, portent des charges. Puis si tu ne vas pas à Jésus, si tu ne te décharges pas sur lui, il faut que quelque chose vienne alléger la charge. Il faut qu'une bouteille de bière ou qu'un 5 à 7 ou un joint de cannabis ou la porno ou de m'étourdir dans quelque chose ou la dépense ou aller ailleurs ou il faut qu'il y ait quelque chose parce que il y a une charge. La charge est trop grande. La charge, une charge, je porte le souci, je porte le poids de ma famille, le poids de mon travail, le poids de mes responsabilités, le poids de mes regrets, le poids de mon couple, le poids de mes enfants, le poids de mes petits-enfants, le poids de mes enfants, bébés, mes enfants, ados, mes enfants. Avez-vous remarqué que tous les pasteurs experts dans l'enseignement des enfants ont tous des enfants en bas de 10 ans? C'est là qu'ils écrivent leur livre, parce que c'est là que tout est parfait, ils ont le plan parfait. Entre 10 et 15, les principes commencent à être mis à l'épreuve. Entre 15 et 20, entre 20 et 30, la majorité d'entre nous, on n'écrit rien. On fait juste prier et dire, Seigneur, ta grâce, tes forces. Seigneur, la charge, la charge, la charge. Sans la charge, le chrétien tombe dans la peur, le chrétien tombe dans toutes sortes de choses, mais déchargez-vous, viens me décharger, déchargez-vous sur lui chaque jour. Je vais à Jésus pour mes proches, je me décharge. C'est long, c'est ça qui tire le message. Je me décharge de mes peurs. Je me décharge de mes peines. Je me décharge de mes soucis. Je me décharge, je me décharge, je me décharge. Et finalement, mes mains peuvent se tendre vers Dieu et dire, Seigneur, je veux continuer à les amener à toi. Déchargez-vous sur lui. Et vous applaudir celui qui prend nos charges. Je prends ma responsabilité, mais je me décharge sur toi. Le héros parle de ses proches à Jésus, même si la foi est faible. Le héros protège et pourvoit. Et il y met toutes ses forces et sa fidélité. Bien sûr que la maman protège. Bien sûr qu'en 2019, la maman pourvoit aussi. Pourvoit de toutes les façons possibles ensemble. Mais je parle au Père ce matin. Il y a une fierté, il y a une reconnaissance qui est perdue sur la noblesse, la beauté d'un homme, d'un père, d'un vaillant héros qui protège sa maison, protège spirituellement, protège et pourvoit. Dans les héros que David mentionne encore dans 2 Samuel 23, voici les noms de vaillants héros qui étaient au service de David. Il y avait là une pièce de terre. Juste ça, c'est son terrain, c'est son lopin, c'est son lot à lui, c'est ta maison, c'est toi, là, c'est tes enfants, tes petits-enfants, ta famille. Il y avait là une pièce de terre. Les autres hommes fuyaient devant l'ennemi, mais Shama se plaça au milieu du camp et il le protégea. Un père pourvoit, un père protège. Il protège spirituellement, il pourvoit de toutes les façons possibles. Et là, il y a une osmose extraordinaire qui prend place. Et là, l'Éternel, il y a un Père qui protège et qui pourvoit, et l'Éternel opérera une grande victoire. Il y a des grandes victoires, des exploits publics, des Goliaths qui tombent sous les applaudissements de la foule dans les héros, dans la vie de David, dont lui-même en était un. Mais David souligne ici la valeur de l'homme, du Père, qui protège et pourvoit pour sa maison, pour ses enfants, pour son champ, sa maison, la sécurité, ses enfants, la nourriture sur la table, un toit, un vêtement, des études, qu'ils puissent avoir la meilleure condition possible pour bien grandir, pour avoir ce que lui n'a pas eu. Le Père héros cultive des vies, il protège et il pourvoit pour son champ. Victor Hugo a dit, il n'y a pas de mauvaise herbe. Moi, j'ai grandi avec toutes sortes de monde qui disait à ma mère, ça c'est une mauvaise herbe. Il n'y a pas de mauvaise herbe, ni de mauvais homme ou de mauvaise femme, seulement de mauvais cultivateurs. Le succès, regardez bien l'osmose, le succès est le surnaturel du Père. Grande victoire de la part de l'Éternel en alliance avec la stabilité, la sécurité et les sacrifices du Père terrestre. Le Père, le succès et la surnaturelle par le Père céleste avec en harmonie, en partenariat avec la stabilité, la sécurité et le sacrifice du Père qui est terrestre. C'est une job de vie. Je ne sais pas qui nous a planté ça dans la tête. Moi, on est devenus parents, Chantal et moi, lorsque je suis devenu père, je ne sais pas pourquoi on était comme conditionnés à dire « Ah, père, là, tu vas l'être jusqu'à 18 ans. Tu les amènes jusqu'à 18. » Combien ont réalisé que c'est une job à vie? Il y a les enfants adultes, c'est une job à vie. Puis après ça, t'embarques des petits-enfants. Nous, on a adopté Patricia. Alors, c'est les enfants, c'est les petits-enfants. C'est une job à vie. Et je veux rétablir ce matin, parce que dans beaucoup de cercles chrétiens, il y a une espèce de mépris pour le père, la mère. Mais pour ça, le gars qui se lève le matin, qui va travailler et qui se donne pour protéger. Bien sûr qu'il doit pourvoir de l'amour. Il pourvoit de l'affection. Il doit pourvoir d'encouragement, de la valorisation. Il doit pourvoir les opportunités. Il doit pourvoir toutes sortes de choses. Oui, mais il doit pourvoir, il pourvoit aussi le toit, la sécurité pour que ses enfants, son lopin de terre, puissent grandir. Et lorsqu'on sort un petit peu de la folie de l'Occident, du Québec, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de la surconsommation. Les pères sont continuellement à essayer de fournir plus de bébelles, plus d'affaires pour les enfants. Il n'y en a jamais assez. Un bâton de hockey à 300$, patin à 800$, cours de ci, cours de ça, un autre bébelle, un iPhone 19, une autre affaire, une autre chose, je ne peux pas vivre sans. Lorsque tu vas dans différents pays, comme moi, je suis allé au-dessus de 45 pays. Lorsque ici même à Longueuil, tu rencontres semaine après semaine au 21 des filles et des garçons qui n'ont rien eu. Que lorsqu'ils se couchent dans un lit, c'est la première fois que c'est leur lit. Je vais m'arrêter pour dire au Père qui pourvoit, ce que tu fais est honorable, ce que tu fais est beau, ce que tu fais est spirituel et ce que tu fais est important. Quelqu'un devrait dire amen. L'apôtre Paul... l'apôtre Paul, le père spirituel de Timothée, l'apôtre par excellence, mais un père spirituel, lorsqu'il enseigne son fils Timothée, son fils dans la foi, et le fils doit maintenant enseigner l'Église, il leur dit, déclare-là ces choses, et à la première réunion, personne n'a dit amen lorsque j'ai lu ça, et c'est très vrai et puissant, déclare-là ces choses. Si un père n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, puis il est pire qu'un infidèle. Dans certains cercles, il y a des hommes qui courent partout pour toutes sortes d'affaires spirituelles. Puis lorsque tu te mets à leur parler, négligent leur maison, leur famille, ont quitté, leur femme ne paye pas de pension, toutes sortes de choses, puis sont là à prophétiser en église. J'aimerais dire quelque chose. La paresse est un péché. Ta provision et ta protection sont une preuve de ta foi. Ton travail est ton témoignage. Et tes mains sont un ministère. Quelqu'un devrait dire amen. L'apôtre Paul en fait un point d'honneur pour lui-même. Lui, l'apôtre, le prédicateur, l'enseignant, l'érudit, celui qui a communiqué l'Évangile. Vous savez, vous aussi, que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour des enfants. Vous savez comment vous-même, mes mains, ces mains ont pourvu à mes besoins pour, et les personnes qui étaient autour de moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Le père doit réaliser ce matin que ses mains sont reconnues comme un ministère devant Dieu. Il le reprend dans Thessaloniciens. « Nous exhortons les pères à mettre votre honneur, de faire de vos maisons des lieux paisibles où on se sent en sécurité, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons enseigné. » Alors ce matin, je veux faire de ce dimanche de la fête des Pères un dimanche où nous honorons. Je veux honorer tous les hommes et les femmes dans ce lieu qui travaillent de leurs mains avec amour et persévérance, se lèvent tôt, se couchent tard pour pourvoir à leur famille. Je veux honorer les hommes et les femmes et les pères qui gagnent leur vie et le fruit du travail de leurs mains choisissent d'en prendre, qui ont travaillé si fort, choisissent à chaque semaine d'en prendre une portion pour l'œuvre de Dieu afin que d'autres fils et filles puissent être aidés. Je veux honorer ensemble, je veux dire à chaque fils qui est ici, chaque fille qui est ici, quel que soit ton âge, quels que soient les enjeux, ton papa, ta maman ont simplement pourvu pour toi. Arrête-toi un moment ce matin pour dire merci. Arrête-toi ce matin pour dire ce que je suis est aussi à cause de papa, de maman. Ils ont protégé, ils ont pourvu. Et je peux te dire autre chose? Je peux te dire à tous les garçons, les filles qui sont ici, tu ne sais même pas de quoi tous tes parents t'ont protégé. Tu ne sais même pas tout ce que ton père a porté. Tu ne sais même pas comment il a souffert en silence puis il t'a protégé. Alors ce matin, nous honorons les pères qui pourvoient, les mères qui pourvoient et qui protègent au nom de Jésus. Être un père, être un héros. Le héros parle de ses proches à Jésus. Même si sa foi est faible, il se décharge sur lui. Le héros protège et pourvoit. Il met toute sa force et sa fidélité. Le héros est patient. Il porte et refuse de pleurer sur ce qui, avec Dieu, n'est pas final. Jacob avait plusieurs fils. Mais dans son âge un peu plus avancé, il a eu un fils, Joseph, qu'il aimait d'un amour particulier, une affection particulière. Les commentateurs, les historiens débattent à savoir est-ce que Jacob a manqué de sagesse dans sa gestion de son affection pour un fils par rapport à ses autres fils. Et possiblement, il était imparfait comme vous et moi étaient parfaits. Mais il aimait son fils Joseph et Joseph avait une marque sur sa vie particulière, un appel particulier que le père reconnaissait. Et le père a mis un manteau sur ses épaules, le manteau de plusieurs couleurs, un manteau qui représentait sa destinée. Et le fils Joseph, même à un jeune âge, avait des songes, une vision de la part de Dieu. Lui aussi, sans aucun doute, manquait de sagesse parce qu'il a ses 11 frères et et Joseph prenait plaisir à raconter à ses frères ses visions. Il arrivait à ses frères, par exemple, vous lirez ça dans la Genèse, il arrivait à ses frères, puis un jour, puis il a dit, « Ah, les gars, hey, les frères, c'est le plus petit en plus. » Il disait à tous ses frères aînés, « Hey, j'ai eu un rêve, c'est malade. On avait chacun notre gerbe, on avait... puis toutes vos gerbes, là, se sont prosternées devant la mienne. » Gloire à Dieu. D'autres rêves du même genre, ses frères le prirent en aversion. Plusieurs millénaires plus tard, il est possible. Pas seulement possible, il est douloureux à l'intérieur de même famille. Comment des offenses, comment des blessures, comment des non-dits, comment des non-pardons, comment des choses à l'intérieur peuvent déchirer ou ce que des gens d'une même famille, après 35 ans de ministère, les gens des mêmes familles peuvent se faire un mal atroce. Mais là, les filles, les fils, dans leur haine, dans leur, qui est entretenue pour leur frère, tout le lien devient brouillé. Et un jour, ils font l'impensable, ils font l'acte fou, l'acte criminel. Alors qu'ils sont en voyage avec le fils, le père les a envoyés faire une mission. Ils prennent Joseph, le mettent dans un puits pour qu'il y meure. Puis finalement, il y a une troupe de marchands, d'esclaves qui passent pour s'en aller en Égypte. Ils le sortent du trou. Et tu peux entendre Joseph, l'adolescent, crier « Pitié, pitié ». Ils le prennent et le vendent pour 20 sicles. Ils vendent leur frère. Et là, il faut faire quelque chose pour que papa, faut conter une histoire à papa. Alors, ils prennent le manteau, ils tuent un bouc, ils souillent. Le manteau de la destinée avec le sang, puis il arrive à leur père, puis ils disent, « Hey, on ne sait pas ce que Joseph, est-ce que tu reconnais ça? » Genèse chapitre 37, verset 33. Jacob le reconnut, il dit, « C'est la tunique de mon fils! Une bête féroce a dévoré! Joseph a été mis en pièces, il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. Au séjour des morts, il pleurait son fils. » La méchanceté a apporté à Joseph la tunique de la promesse et du rêve de Dieu et a souillé. C'était la tunique du mensonge concernant le rêve et la destinée de Dieu pour son enfant. J'aimerais dire que chaque père va se faire présenter par Satan lui-même des tuniques qui disent « c'est fini, c'est trop tard, la destinée est souillée ». Il y a quelque chose de fou à partir de ce moment-là, quel que soit ce qui se passait. Joseph a dit, Jacob a dit « je refuse d'être consolé, je vais pleurer jusqu'à ma mort, il n'y a personne, il y a d'autres fils, il y a une famille, non, c'est fini pour lui, c'est terminé ». Et pendant 22 ans, il va pleurer et être en deuil pour ceux qui n'étaient pas morts. Pour ce que Dieu était encore en train de travailler, qu'il ne voyait pas. Et là, vous connaissez l'histoire de Joseph, d'autres ne la connaissent pas, c'est un des récits les plus extraordinaires de la Bible. Mais pendant que le père se lamentait et pleurait et s'enlisait dans ses culpabilités, ses hontes, ses accusations, ses méfiances et sa tristesse et son deuil, Dieu est en train de préparer Joseph. Lorsqu'il s'en va en Égypte, Dieu a un plan pour lui et se met à le façonner, se met à le développer, se met à lui faire des promotions, à le protéger, à l'élever, à l'utiliser jusqu'à ce que Joseph devienne le ministre de l'agriculture et de la provision et de la sécurité du pays, second dans tout le pays. Et lorsque le père qui est en deuil et ses fils, il y a une famine, on va tous mourir, allez voir le ministre de l'agriculture, peut-être qu'il va distribuer la nourriture. Et tel que Joseph l'avait vu, tel que la promesse avait été faite, le vêtement souillé qui disait que c'était fini est un mensonge. Parce que Dieu est en train de préparer Joseph et les fils reviennent devant lui. Et exactement comme la prophétie vient lui demander de la nourriture, je veux dire à un papa ce matin, à une maman, ne crois pas le vêtement de la destinée que tu crois qu'il est souillé. Dieu est encore à l'œuvre. Dieu fait encore une œuvre. Dieu prépare encore quelque chose que tu ne peux pas. Vous devriez applaudir. Et le héros, il est patient. Il est placé, il ne pleure pas. Ce qui est avec Dieu n'est pas final. Lorsque les fils reviennent, Joseph leur dit même, Genèse 45, il vient se passer devant lui, je suis Joseph, je suis votre frère, je vais vous donner, je vais pourvoir pour vous, ne vous tourmentez pas avec ce que vous m'avez fait. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Hâtez-vous d'aller le dire à mon père. La question, le héros doit être patient. Est-ce que tu pleures, papa? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu te condamnes? Est-ce que tu te culpabilises? Est-ce que tu blâmes d'autres? Est-ce que tu as abandonné, tu t'empoisonnes la vie pour quelque chose que tu crois mort, mais que Dieu peut ressusciter? où Dieu agit. Joseph établit ses frères lorsqu'ils reviennent. C'est un moment hallucinant. Il revient avec les frères et le père. Et il leur donna une propriété dans la meilleure partie du pays. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père. Je dirais de cette façon, le héros est patient même lorsque la fête tarde. Un homme avait deux fils. Le plus jeune, c'est à son père. Donne-moi la portion qui m'appartient. Ça fait partie de la vie d'un père et d'un grand-père d'entendre son fils, sa fille, d'entendre des gens que tu t'es donné tous tes enfants, ta chair, que tu as donné toute ta vie, te dire des choses que tu n'aurais jamais imaginé qu'ils diraient. Donne-moi ce qui m'appartient. Et le père, comme toi, comme moi, qui ne peut pas imposer ses valeurs, qui ne peut pas l'empêcher, qui ne peut pas le protéger du mal qui va aller se faire, le voit partir. Et tout ce que le père entend, ce n'est pas la durée du temps. Pour Jacob, 22 ans, et lui s'est tourmenté. Et on voit, on ne sait pas tout, mais les échos du père, il y a tout le cœur, la peur, la colère, la culpabilité, la honte. On a des mots qui sortent, débauche, gaspillé, prostitution, avec les prostituées. Il a tout dilapidé. Il est avec dans une porcherie. Il est avec des pourceaux. Je ne peux pas rien faire, mais il y a quelque chose de magnifique. On compte toujours cette histoire-là comme c'est. Ah oui, parce que l'autre, tu parles de la parabole du fils prodigue. Non, je parle de la parabole du père patient. Parce que vous comprenez que cette parabole est une parabole sur Dieu le Père. Que pendant qu'on était loin, pendant qu'on courait loin, pendant qu'on le refusait, pendant qu'on le méprisait, pendant qu'on... Lui était là et attendait avec ses bras ouverts, était prêt à nous reprendre et à nous restaurer. Vous devriez applaudir Dieu qu'alors que vous étiez loin, il est encore là. Moi, le verset le plus extraordinaire de Luc chapitre 15, moi, pour moi, le cœur du verset qui me fait danser, c'est le Père patient. La Bible nous dit « Le fils se leva ». Bien sûr, le texte nous dit que le fils a regardé à l'intérieur de lui-même et dit « Je vais retourner à la maison de mon père ». Mais le verset 20, « Le fils se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, et il courut vers lui. » J'aime ce père qui, contrairement à Jacob, qui a fermé la porte, qui a claqué la porte de l'espoir, qui a claqué la porte de la foi, puis qui est rentré à l'intérieur, puis qui a dit qu'il arrive n'importe quoi, moi je vais être dans la peine, le deuil et l'amertume. Le Père céleste, qui communique son cœur à chaque père. À la fin de chaque journée, je le vois regardant au loin avec patience. Il va revenir. Mon fils va revenir. Je le sais qu'il va revenir. Je veux être ce père qui ne claque jamais la porte de l'espoir, la porte de la foi, la porte du retour et qui va être là avec des bras ouverts pour accueillir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Ah, je termine avec ceci. Être un père, être un héros. Le héros se prononce, le héros prononce des paroles prophétiques. Il arrête le cycle de souffrance, des souffrances passées pour le futur que Dieu prépare. Pasteur Claude, t'es en beurre épais à matin. Appelle-moi pas prophète, quand même, je suis un père. Tu sais, j'essaie juste de passer à travers. J'essaie, écoute, même des fois, Pasteur Claude, là, au bureau, là, ça se met à parler de choses spirituelles, j'aurais vraiment une chance de parler, puis je ne parle même pas. Fait que laisse faire prophète, laisse faire. Moi, je suis juste un père. Tu es appelé à être un père. Tu es appelé à être un héros qui prie et qui va à Jésus, qui n'arrête jamais d'aller à Jésus pour ce que Dieu t'a confié. En te déchargeant, je garde ma responsabilité, mais je me décharge sur lui jusqu'à ce que la victoire vienne. Non, tu es plus que juste un papa. Tu es un père, tu es un héros. Et mère aussi, bien sûr. Mais tu es un père, tu es un héros. Tu pourvois. Tu protèges, tu es un père, tu es un héros, tu es patient, tu fermes jamais la porte de l'espoir, la porte, même si c'est au loin. Oh non, moi j'ai la porte ouverte et les bras ouverts. Tu es non seulement un père, mais tu es un prêtre. Comment un prêtre? Non, pas un prêtre de soutane religieuse que notre province a connue. Tu es le prêtre de ta maison, tu es le prêtre de ton foyer, le prêtre qui amène Dieu aux siens et qui amène les siens à Dieu. C'est l'œuvre d'une vie entière. Et tu es prophète. Pas prophète bizarre. Prophète, je reçois des paroles de la part de Dieu que je vais dire à mon épouse, à mes enfants, de l'abondance du cœur que Dieu va avoir renouvelé. Des paroles qui me surprendront moi-même. Des paroles qui seront, parfois, sembleront en contradiction avec la réalité de ce que je vis. Mais des paroles qui sont inspirées de Dieu. Je parle selon la vie. Et le dernier texte de l'avant-midi est un texte magnifique où vous avez encore une fois un père, une mère. Genèse 35, ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha. elle eut un accouchement pénible. Et pendant des douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains pas, tu vas avoir un fils. » Mais comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle est morte en donnant naissance, tellement de souffrance, une vie de souffrance, et elle donne naissance dans la souffrance, et elle donne le nom à son fils. Elle dit, « Toi, je meurs dans la souffrance, et tu vas t'appeler Ben-Oni, le fils de ma tristesse, le fils de mes larmes. Voici ce qui sera sur toi, fils de mes larmes, fils de ma tristesse, fils de ma souffrance. » Mais le père dit non, il ne s'appellera pas Ben-Oni. Ne s'appellera pas le fils de la souffrance. Il va s'appeler Benjamin, le fils de la main droite. Le fils de la main de Dieu. Le fils de la main droite. Le psaume 80 dira, « Ta main droite, Seigneur, sera sur le fils que tu as choisi. » Il ne sera pas. Et comme père, nous avons non seulement cet appel, mais par la grâce de Dieu, cette capacité, c'est humain de charger, c'est humain pour des pères, pour des mères, de charger nos enfants avec la souffrance et le poids de ce qu'on a vécu. Mais par la grâce de Dieu, le héros, l'héroïne, le père, la mère, mais le héros prononce des paroles, tu dis non, tu ne seras pas Ben-Oni, tu ne seras pas le fils de la souffrance, tu seras le fils qui va marcher sous la main de Dieu et Dieu va servir de toi. Et de la lignée de celui qu'elle avait appelé le fils de la souffrance, de la lignée de Benjamin, vous avez le premier roi d'Israël. De la lignée de Benjamin, vous avez Esther qui a libéré les captifs. De la lignée de Benjamin, vous avez Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul, qui est devenu un apôtre dans les nations. Je dis à chacun qui a besoin de l'entendre, papa, nous allons refuser de les Ben-Oni et prononcer des paroles de Benjamin. La main droite de Dieu sera sur nos enfants pour renverser le passé vers le futur de Dieu. Ouais, quand même, parce que Claude, c'est Ben-Oni, Benjamin, c'est quand même, c'est beau, là, mais, waouh, Ancien Testament, là, des millénaires, mais non. On a un Benjamin, on a des Benjamins ici. Nous avons des Benjamins en 2019. On va regarder en terminant un court vidéo d'un de nos Benjamins, Benjamin Aguila, qui avait un Ben-Oni sur sa vie, qui avait un poids sur sa vie, avait une terrible attaque de cancer sur son fils, mais la main de la maladie, la main de la mort, la main de ce qui terrorise a été poussée, tassée par la main de Dieu. Je dis à tout le monde qui porte un Ben-Oni, à papa et à maman, nous sommes le Dieu qui dit, je vais te donner un cœur, des paroles, une foi, une intervention de moi pour que la main de la douleur soit tassée, pour que la main droite de Dieu vienne donner victoire et guérison dans le nom de Jésus, que tous les Benjamins disent Amen et Amen et Amen. On regarde ensemble et on va à la prière.
On aurait pu tomber, mon bébé.
Coucou, tu fais un coucou à la caméra? Dis coucou.
Benjamin, le Ben Oni, le poids, n'était pas seulement pour toi. Il y a un historique derrière qui rendait le combat encore plus grand au-delà de la terreur d'avoir un diagnostic aussi grave sur ton fils. Il y avait un arrière-plan que j'aimerais que tu partages avec le peuple avant qu'on aille à la prière ensemble.
Oui, en fait, entre l'âge de... Est-ce que ça marche? Entre l'âge de 15 et 25 ans, j'avais 15 et 25 ans, mes parents ont traversé en tout 7 fois le cancer. Ma maman était atteinte 3 fois du cancer, mon papa 4 fois. C'était des gens de foi, des gens chrétiens, mais... C'était 7 annonces de diagnostic, 7 fois des traitements, des opérations, des Noëls à l'hôpital, des anniversaires à l'hôpital. Ma maman est une femme de foi, mais je l'ai vue sombrer dans une dépression. Mon papa qui tenait le coup. Au décès de ma mère, j'ai vu mon père lui aussi sombrer. Puis il y a vraiment quelque chose de très, très lourd. Oui, il y avait la foi, mais il y avait vraiment une ambiance qui était, c'était difficile, c'était lourd à porter.
Aussi à ce moment-là.
Ouais, ça pour moi c'était ok. En plus, je suis initié à l'église. Tout pour moi voulait dire, regarde, c'est une vie nouvelle, je commence quelque chose de nouveau. Il y a eu une douleur en arrière, mais maintenant on commence quelque chose de nouveau. C'est ici que j'ai rencontré ma femme, on s'est mariés, on a eu un premier bébé. Puis pour moi, la vie commençait. Et puis à l'âge de 30 ans, alors que mon garçon était en parfaite santé, on m'a annoncé un diagnostic de cancer pour mon bébé. Puis c'est comme si toute la peine que je pensais qu'était en arrière est vraiment revenue sur moi, puis multipliée fois 100. Et vous étiez là ce jour-là, le jour où est-ce qu'on a annoncé le cancer du rein. Puis j'avais vraiment le feeling, comme la scène de Jacob qui disait « Laissez-moi pleurer, je vais mourir en pleurant ». Vraiment l'impression que cette peine-là allait m'écraser.
Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Comment le Seigneur a poussé la main de Benoni pour arriver à ce que sa main droite te relève?
Il y a vraiment, c'était sur plusieurs années, mais il y a vraiment un moment particulier. Le lendemain du diagnostic de cancer, je me rappelle vraiment, vous étiez là, puis j'étais même pas capable de me lever quand on m'a dit la nouvelle. C'est du monde qui m'aidait à me porter juste pour me déplacer. Vraiment le feeling qu'il y a quelque chose qui est mort en moi. Et puis je suis rentré chez nous, j'ai foncé à la maison, je suis rentré chez nous faire mes valises, puis je me suis effondré par terre. Puis la meilleure façon que je peux vous dire, il y a vraiment une force qui m'a relevé, qui venait pas de moi. Et puis vraiment des paroles qui venaient sur mon cœur, j'entendais pas une voix dit, mais vraiment des paroles de « je vais combattre pour vous, je suis ton père, je suis ton Dieu, je vais combattre pour vous, le cancer de ton garçon c'est mon combat, je vais combattre, toi puis ta femme je vais vous porter et vous allez me voir agir ». Puis
Dieu a donné des promesses et des textes bibliques qui ont eu vraiment une signification pour toi, qui sont venus porteurs de vie.
Oui, vraiment pour moi le texte de Romains chapitre 8 verset 11, c'est vraiment c'est ce que j'ai vécu ce jour-là. Le même esprit qui a ramené Christ de la mort à la vie vit en nous. C'est vraiment le feeling que j'ai vécu. Il y avait une mort spirituelle, puis j'ai vraiment vécu quelque chose. Dieu m'a relevé. Puis on a vu Dieu agir. On a vu Ruben, c'était 20% de chances de survie. On a vu Ruben complètement déjouer les diagnostics. Je l'ai vu. C'était douloureux, c'était difficile. Mais on a vraiment vu la main de Dieu sur lui. Ma femme a pu accoucher, elle était enceinte à cette époque-là. Par la suite, on s'est parlé tous les deux, puis vous avez vu quelque chose. On a parlé ensemble, on a partagé ensemble, puis vous m'avez appelé à venir ici, puis je sentais vraiment que c'était le temps de Dieu pour démarrer le ministère. Et qu'il y avait vraiment, à travers cette douleur-là, quelque chose de beau qui émergeait. J'ai travaillé avec vous, puis c'est le privilège de pouvoir servir le Seigneur ensemble, puis quelque chose de beau. Mais j'ai aussi découvert c'est la suite du verset, Romains chapitre 8, verset 11. La suite du verset, c'est « Et si vous voulez vivre, vous allez devoir laisser l'Esprit de Dieu mettre à mort ce qui est mal en vous ». Puis c'est fort parce que juste avant, l'Esprit de Dieu nous ramène à la vie, mais juste après, c'est l'Esprit de Dieu qui doit mettre des choses mortes en vous. Puis ces années de douleur, ces années d'épreuves, ça a amené beaucoup de séquelles, de dégâts en moi. Puis principalement, il y avait vraiment une colère, une rage en moi terrible. Je pouvais vraiment, vraiment m'emporter. Difficulté à gérer mes émotions, difficulté à... Puis ça fait des années qu'on travaille ensemble, fait que vous m'avez vu dans les hauts puis dans les bas, je ne vous apprends rien. Mais vraiment quelque chose de... Puis ça a été très difficile pour notre mariage aussi, après la maladie, pour mon épouse, toute cette colère-là qui était emmagasinée. Puis j'avais vraiment le feeling, Dieu me disait maintenant, Ben, si tu veux vivre, oui, je vais donner ma vie, mais si tu veux vivre, il faut que tu me laisses, il faut que tu laisses mon esprit mettre à mort ce qui est mal en toi, le péché. Et c'est vraiment, c'est ma prière tous les jours, c'est mon témoignage, Seigneur, ce qui est mort en moi, ramène-le à la vie. Et Seigneur, ce qui est mal en moi, amène-le à la mort.
Et aujourd'hui, son nom n'est pas Ben Oni, son nom est... Benjamin, le fils de la main droite, avec mon épouse Anne-Marie, leurs 3 garçons en parfaite santé. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble la grâce, la bonté de Dieu? Mieux que ça, tout le monde debout, on se lève ensemble. Est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur ensemble ce matin? Allez, allez, voulez-vous ovationner le Seigneur? Dans les dernières minutes ce matin, je vais inviter tous les papas. On va chanter la promesse de Dieu, mais je veux prendre un moment. On n'est pas à 5 minutes près. Je vais demander à tous les parents, tous les pères, de vous avancer. Je vais avoir le privilège de prier pour vous. Je peux-tu demander à tous les pères tout de suite de venir? Voulez-vous venir, les papas? On veut terminer avec tous les pères Nouvelle Vie en avant, les grands-pères. Voulez-vous vous approcher? Et tous ceux, pendant qu'ils s'approchent, venez vite, les gars, courir jusqu'en avant. Et pendant qu'ils s'approchent, tous ceux qui sont à l'arrière, est-ce qu'on peut donner une ovation à nos héros ce matin? Pas vraiment, là.